Bonjour Kevin Dufresne.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, encore beaucoup de questions sur l'élargissement du pass sanitaire et son application concrète. Les centres commerciaux, par exemple, se demandent encore quels établissements seront vraiment concernés et se creusent la tête pour savoir comment organiser le contrôle. On fera le point et on verra comment il a été appliqué hier soir auprès des 15 000 spectateurs des festivités du 14 juillet à Paris. Les autres titres, Kevin.
Cet élargissement du pass sanitaire qui suscite déjà une opposition dans la rue. Un peu moins de 20 000 personnes ont manifesté hier en France selon le ministère de l'Intérieur. Dans ce journal encore, la crainte de la guerre civile qui fait toujours rage au Tigré en Éthiopie. Nous serons sur place et la disparition d'un artiste qui a toujours lutté contre l'oubli. L'hommage à Christian Boltanski.
Oui, et à 8h20, dans le grand entretien, nous lui rendrons également hommage à artiste indéfini et indéfinissable. Vos souvenirs d'exposition Boltanski, ils seront évidemment les bienvenus. Appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert. Et avant cela, à 7h50, Marlène Schiappa, la ministre chargée de la citoyenneté. C'est la fin de l'Observatoire de la laïcité. Place à un nouveau comité, placé cette fois sous l'autorité du Premier ministre.
France Inter. L'Orchestre National de France, le chœur et la maîtrise de Radio France au grand complet. La Tour Eiffel magnifiquement cernée par le feu d'artifice, le tout devant 15 000 spectateurs. La fête nationale a retrouvé son lustre hier soir à Paris, mais pas à n'importe quel prix. Masque obligatoire sur le Champ de Mars, nombre de places limitées et surtout passe sanitaire obligatoire. Résultat, ce 14 juillet semblait faire office de test grandeur nature, puisque le passe sanitaire va s'imposer un peu partout dès la semaine prochaine. Reportage Céline Autain.
Il y a bien eu quelques files d'attente à l'entrée sous les chapiteaux, le temps de scanner chaque passe sanitaire et de donner un bracelet aux spectateurs. Mais les contrôles ont été fluides et stricts. Salut Karine, venue de Bretagne avec son fils.
Notamment les passes sanitaires qui étaient périmées de plus de 48 heures n'ont pas pu passer. Donc du coup, beaucoup plus sereine d'assister à l'événement malgré la foule. Mais parce que justement, le sérieux des contrôles, c'est les conditions pour revenir l'année prochaine avec encore plus de monde.
Sortir maintenant, c'est toute une organisation pour Elsa et ses amis, 17 ans. Elles ont fait leur test in extremis avant le spectacle.
On a fait cet après-midi, dès qu'on a su que c'était obligatoire. S'il faut le faire, on le fait. Et surtout le fait qu'il y ait énormément de monde qui vienne, ça montre que tout le monde avait besoin un peu d'un événement comme celui-là pour pouvoir sortir et reprendre la vie qu'on avait avant.
À côté d'elle, des agents de la ville de Paris passent pour vérifier que tout le monde porte bien le masque. Une présence nécessaire pour ces adolescentes.
Parce qu'on ne sait jamais. Il y a quand même beaucoup de foule, donc oui, liberté, mais voilà, on porte quand même le masque et on prend un minimum de précautions.
Comme un avant-goût de leur été, dont elles ont bien l'intention de profiter tout en respectant à la lettre les mesures sanitaires.
Céline Autain, et ce pass sanitaire, il sera donc obligatoire dès mercredi pour entrer dans les lieux de loisirs et de culture, début août dans les restaurants, les trains ou encore les centres commerciaux où la mise en place s'annonce être un véritable casse-tête, Hélène Philly.
Les directeurs de centres commerciaux ont quelques sueurs depuis lundi soir, car le contrôle du pass sanitaire de chaque client n'a pour eux rien d'évident. Beaucoup ont déjà installé des capteurs à l'entrée de leur magasin pour gérer le flux, mais cela ne suffira pas pour le pass sanitaire. Il faut du personnel et du temps pour vérifier certificat de vaccination ou test PCR avec pièce d'identité pour chaque personne à l'entrée. Les professionnels réclament la possibilité de rester sur un contrôle aléatoire, inquiets de découvrir hier les 45 000 euros d'amende en cas de manquement à cette obligation. Et puis il y a une autre difficulté, comment interdire l'accès à une grande surface à quelqu'un qui vient y faire ses courses alimentaires ou chercher un médicament en pharmacie. Le secteur attend encore des réponses sur ce point et sur la taille des établissements concernés. Les dernières restrictions de mars concernaient les centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés.
Hélène Philly du service économique de France Inter. Pour ce qui est des trains, le pass sanitaire ne sera demandé qu'après le grand chassé-croisé du premier week-end d'août. Ce pass sanitaire, comme la manière de le mettre en place, qui ne passe pas du tout auprès de certains, 19 000 manifestants hier partout en France contre son élargissement, chiffre du ministère de l'Intérieur. À Saint-Étienne, ils étaient 600 pour dénoncer ce qu'ils estiment être une atteinte à leur liberté. Une contestation à laquelle se joignent aussi les anti-vaccins, comme Gisèle, elle est enseignante.
Je ne condamne pas les gens qui se font vacciner. J'ai des amis âgés qui se sont fait vacciner. Chacun juge. Mais l'État n'a pas à nous l'imposer. L'État n'a pas à, et surtout, nous l'imposer d'une façon aussi hypocrite. Alors quand je vais aller boire un café, comme ça, à l'improviste, avec des amis, je rencontre des copains, je dis, allez, on va se boire un verre. Ah ben oui, mais 48 heures avant, j'ai pas fait mon test. Non mais, ah bah oui, bah vous avez qu'à vous faire vacciner. Alors je vais me faire vacciner pour un truc aussi futile que d'aller boire un verre. Ah bah non, tant pis, j'irai plus au bistrot, j'irai plus au restaurant, j'irai plus au cinéma, j'irai plus dans les salles de sport, j'irai plus à la piscine. Ça va me coûter, mais ma santé et ma liberté, elles passent avant. Et je suis plus libre en n'allant pas dans ces loisirs qu'en me faisant vacciner contre mon gré pour y aller.
Réaction au micro de Tommy Cataneo, France Bleu Saint-Étienne-Loire. Le projet de loi sanitaire sera examiné lundi en Conseil des ministres avant d'être soumis au Parlement à partir de mercredi. Et en dehors du pass sanitaire, une autre mesure a été annoncée hier. L'isolement obligatoire de 10 jours pour toute personne testée positive au coronavirus. Un régime réservé jusqu'ici aux voyageurs arrivant de pays placés sur liste rouge par la France. Et plus de 2 millions de Français ont déjà pris rendez-vous pour se faire vacciner dans les prochains jours. Selon les derniers chiffres de Doctolib, c'est l'une des trois plateformes disponibles pour réserver un créneau. Les chiffres de la vaccination qui font la course avec ceux des contaminations. 8875 nouveaux cas enregistrés hier, deux fois plus qu'il y a une semaine. En revanche, il y a toujours moins de patients Covid à l'hôpital, 931 en soins critiques ce matin. Quatre départements sont toujours en vigilance orange. Pluie, inondation ce matin, la Haute-Marne, le Doubs, la Haute-Saône et le Jura. Six autres départements de l'Est de la France sont eux en vigilance orange pour risque de crue.
Les prix des carburants ou encore du chauffage devraient augmenter à court terme dans toute l'Union européenne.
Ça semble inévitable au vu de la feuille de route présentée hier par la Commission pour réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et ce, à cause de l'extension du marché carbone européen qui va concerner les transports maritimes, routiers et le chauffage. De quoi faire craindre un effet gilet jaune à l'échelle européenne. La France se dit réservée face à la mesure. Certaines ONG environnementales alertent sur son caractère antisocial. Sandy Dauphin.
Il existe un marché carbone européen où s'échangent les permis à polluer pour certains secteurs, électricité, sidérurgie ou encore cimentier. L'idée est d'étendre en 2026 ce marché à d'autres industries très polluantes, le transport maritime, le transport routier et le chauffage. Les fournisseurs de carburant ou de fuel domestique devront donc acheter des quotas d'émissions au prix du CO2 et ils vont répercuter le prix sur les consommateurs, s'inquiète l'ONG Réseau Action Climat, l'un de ses porte-parole, Nel Makarov.
Lorsqu'ils vont se rendre par exemple à la pompe pour faire le plein d'essence ou de diesel, ou lorsqu'ils se chaufferont au gaz et au fioul, ils vont devoir payer le prix du CO2 qui sera fixé par le marché carbone européen. C'est une proposition qui est, selon nous, extrêmement dangereuse parce que les ménages qui sont piégés, qui n'ont pas le choix que d'utiliser leur véhicule essence ou diesel, ou qui n'ont pas le choix que de se chauffer au fioul et au gaz, vont devoir payer le prix du CO2. Et donc, ça les impactera de plein fouet sur leurs revenus et sur leur pouvoir d'achat.
La Commission européenne promet un accompagnement social avec un fonds alimenté par ce nouveau marché carbone, enveloppe estimée à 70 milliards d'euros sur 7 ans. Pas de quoi rassurer pour l'instant les ONG.
Sandy Dauphin est le résumé des principales mesures du plan climat de la Commission européenne. C'est à lire sur franceinter.fr.
8 mois après le début de la guerre civile, quelle est la situation dans la région du Tigré en Éthiopie ?
Le conflit oppose le gouvernement fédéral aux forces du Front de Libération du Peuple du Tigré. Le Tigré, cette région du nord du pays, des négociations avaient démarré pour un couvre-feu, mais en vain. Les affrontements ont continué ces dernières semaines. Les forces tigréennes contrôlent désormais Mekele, la capitale provinciale, et mènent maintenant l'offensive pour récupérer certains territoires de la région voisine, Amara, où un ordre de mobilisation générale de la population a été décrété. Sur place pour France Inter, dans la ville de Dabat, Noé Ochebaudin.
Entassés à l'arrière d'un pick-up, une douzaine de miliciens des campagnes environnantes foncent à travers la ville de Dabat. Armes à la main, ils se dirigent vers le nord, sur le front, pour combattre les forces tigréennes. Getachew Gacho est responsable du bureau de la sécurité à Dabat.
Nous avons environ 3000 gardiens de la paix qui sont prêts ici. 200 sont partis jusqu'à présent, mais d'autres vont bientôt y aller.
L'ordre de mobilisation concerne tous les hommes possédant une arme, mais le chef du parti de la prospérité du district, Abaye Mengistu, assure, lui, qu'il s'agit d'un appel à toute la population amara.
Ce n'est pas possible de comptabiliser les forces mobilisées. C'est un appel à toutes les forces nécessaires. Nous en appelons au peuple. Ça ne se compte pas. C'est le peuple tout entier qui se mobilise.
Devant la mairie où se retrouvent les miliciens, une dizaine de femmes préparent du pain et des galettes. Parmi elles, Adebabaye Aftou, dont le mari est parti au front un peu plus tôt.
Nous, on est à leur côté, on prépare la nourriture. Ils restent la plupart du temps dans les tranchées. Ils n'ont pas de nourriture fraîche, donc on leur prépare un panier.
La région Amara assure que cette mobilisation populaire est une question de survie pour la province. Dabat, Noé Ochebaudin, France Inter.
À Cuba, un premier pas vers l'apaisement après les manifestations historiques de dimanche. Le gouvernement autorise les Cubains à ramener de voyage des denrées alimentaires, des médicaments ou encore des produits d'hygiène sans avoir à payer de taxes. Dimanche dernier, des milliers de Cubains avaient manifesté au cri d'abat la dictature pour dénoncer la crise économique qui frappe le pays. Invincible Pogacar hier sur la route du Tour de France. Le Slovène s'est imposé au sommet du col du Porté dans les Pyrénées après avoir résisté aux attaques de ses concurrents. Tadej Pogacar qui a désormais 5 minutes 39 d'avance au classement général sur son dauphin, le Danois Jonas Vingegaard. Sauf improbable surprise, il ne peut plus perdre le Tour. Dernière étape de montagne et dernière arrivée au sommet aujourd'hui entre Pau et Luzardiden avec le mythique Tourmalet à escalader et Emmanuel Macron pour suivre l'étape. Enfin, toujours vêtu de noir, il a passé sa vie à s'interroger sur la mort, la disparition et la mémoire. Christian Boltanski est mort. Hier, il avait 76 ans. C'est sans doute l'artiste plasticien français contemporain le plus connu au monde, marqué par l'histoire de son père, médecin juif d'origine russe qui a dû se cacher pendant la guerre. Son œuvre est traversée notamment par le souvenir de la Shoah, avec parfois des installations impressionnantes composées de milliers de photos de visages pour ne pas qu'on les oublie. Le producteur et fondateur des cinémas MK2, Marine Karmitz, est l'un des grands collectionneurs de Christian Boltanski.
C'est un rapport très profond avec une réalité qui m'est très quotidienne, à savoir que nous sommes des morts vivants et que dans ce contexte-là, on se pose en permanence la question de la vie. Et Christian, qui a montré les visages de centaines de gens morts, très souvent d'ailleurs au cours de la dernière guerre, dans la Shoah, en fait nous parle de la vie, c'est-à-dire revivant ces personnages. Nous les rend de nouveau présents et proches de nous, ce qui fait d'ailleurs que cette œuvre est si universelle. C'est pour moi l'un des artistes les plus importants de ce siècle, l'artiste français le plus connu au monde. Et donc, je suis bien avec ses œuvres parce que justement, elles me parlent de la vie et de l'envie de vivre. Et ça, c'est une chose très importante. Il n'est pas un contemplateur de la mort, il est contemplateur de la vie.
Marin Karmitz, joint par Isabelle Pasquier. On ne peut rien sauver, tout disparaît, mais on peut protester contre l'oubli, disait Christian Boltanski, à qui France Inter rend hommage toute la journée, avec notamment la rediffusion ce soir à 21h du Grand Atelier avec Vincent Josse, dont il avait été l'invité. Et dès ce matin, Karine, avec vos invités à 8h20.
Oui, trois invités, notamment l'artiste Bertrand Lavier, la productrice qu'on connaît par cœur sur France Inter, Laure Adler, et la journaliste de la rédaction Isabelle Pasquier, dont vous parliez à l'instant. Tous les trois ont bien connu et ont fréquenté cet incontournable plasticien français Christian Boltanski, qui nous a donc effectivement quitté hier. Ne manquez pas cet hommage qui lui sera rendu tout à l'heure dans le grand entretien. Merci Kevin.
À tout à l'heure.
Je vous dis à tout à l'heure, 9h.